Nous allons parler de Saint Joseph. Je remplace le père Badasser, qui est au fond de son lit, qui est malade. Alors, je ne ferai... Voilà, on fera ce qu'on peut. Il m'a donné son topo, ce qu'il comptait vous dire. Mais le délai est un peu court pour que je comprenne exactement ce qu'il a voulu faire. Alors, ça va être un petit peu brouillon, mais je crois que je peux quand même vous parler un peu de Saint Joseph. Alors, la première chose qu'on peut dire de Saint Joseph, il me semble, c'est que Saint Joseph est un juste dans l'écriture, c'est quelqu'un qui met en œuvre l'œuvre de Dieu. Quelqu'un qui est juste, c'est quelqu'un qui met en pratique la loi divine. C'est ça un juste. Aujourd'hui, les Israélites ont établi un ordre qui s'appelle, pareil, l'ordre des justes, les justes parmi les justes, qui distingue les personnes qui justement ont appliqué la loi divine, qui ont été ajustées à la volonté de Dieu. Alors quand est-ce que Saint Joseph s'ajuste tout particulièrement à la volonté de Dieu? On le voit au moins à deux moments. La première fois, c'est quand Joseph prend chez lui Marie. Alors, vous savez que dans l'Écriture, un mariage juif se passait en deux temps. D'abord, il y avait une première étape qui était quand ils avaient 12 ans. Ils se mariaient, mais il ne se passait pas grand-chose. Chacun revenait chez son papa et chez sa maman et continuait à grandir. Et puis après, ils se retrouvaient un peu plus tard, vers l'âge de 16 ou 17 ans. Et à ce moment-là, ils habitaient ensemble. Donc, quand la Sainte Vierge vient voir Joseph, on imagine la rencontre. La Sainte Vierge lui dit qu'elle est enceinte. Comment est-ce qu'on peut savoir que, du coup, que Joseph est un juste? Parce que Joseph se rend compte que la Sainte Vierge ne lui ment pas, lui dit la vérité, et il sait qui est la Sainte Vierge. Donc, il ne comprend pas ce qui se passe, mais il sait que la Sainte Vierge est probablement en train de vivre l'événement de sa vie, l'événement de l'Annonciation, et qu'elle va concevoir un enfant. C'est la vision de Saint Joseph, ou plutôt, au-delà de la vision, c'est l'écoute, parce que vous savez que le peuple juif ne voit pas, le peuple juif, il écoute. Quand Dieu s'adresse au peuple juif, il leur donne des images quand ils ne comprennent pas, mais quand ils comprennent tout, en général, l'audition suffit. C'est pour ça que le premier commandement, c'est « Écoute Israël ». Ça, c'est une chose importante. Donc, comme Joseph est juste, il entend Marie, il entend ce que Dieu veut, et il ne la dénonce pas. Mais ça n'empêche qu'il a un problème, parce qu'il est juste, justement, il devra appliquer la loi. Il devrait appliquer la loi. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Joseph, justement parce qu'il est juste, ne va pas appliquer la loi, parce qu'il voit que Dieu agit au-delà de la loi. En fait, Dieu accomplit la loi, et c'est ça que Saint Joseph est en train de voir. Donc, Saint Joseph va s'endormir cette nuit-là. Et alors, moi, j'aurais jamais pu dormir à sa place. C'est vrai, vous imaginez, votre fiancée vous dit qu'elle est enceinte, vous savez très bien que ce n'est pas vous, elle vous dit que c'est l'œuvre de Dieu, et vous la croyez. Bon, d'accord, Mais de là à s'endormir ce soir-là, moi j'aurais eu du mal à dormir, je ne sais pas vous. Mais il dort, Joseph. C'est un signe intéressant pour, qui montre que s'il arrive à dormir, c'est qu'au fond, pour moi, c'est une des choses qui montre qu'il est juste, c'est-à-dire qu'il il a vu quelque chose, il ne le comprend pas, mais il l'a vu, il l'a entendu. Maintenant, il avance un peu plus loin, il dort. Et c'est là que le Seigneur va lui expliquer les choses et va lui dire de ne pas craindre et de prendre Marie chez lui. La deuxième chose, c'est que Joseph obéit tout de suite à Dieu. Vous voyez, Joseph ne s'inscrit pas dans un couvent pendant 8 jours pour discerner si c'est de Dieu ou pas. Tout de suite, il a entendu Dieu, tout de suite il agit. Joseph, c'est un homme d'action. Mais c'est un homme d'action qui est entièrement relié à Dieu en permanence. Une autre chose encore, c'est que Joseph va être celui qui va nommer Jésus. Ça, c'est très, très étonnant. Vous voyez ? Parce que c'est lui qui va certifier que Jésus va être celui qui sauve. Et d'ailleurs, il y a un autre paradoxe qui est très, très étonnant. C'est que Joseph va sauver le Sauveur. Ça va être un petit peu plus tard. Mais c'est marrant de voir ça, c'est que Jésus est notre sauveur parce qu'il va mourir sur la croix ressuscité. Mais qui est-ce qui va sauver le sauveur de la main d'Hérode ? C'est Joseph. Intéressant comme Joseph est le sauveur du sauveur, Saint Joseph. La paternité de Joseph... C'est une paternité qui est réelle, parce qu'on le voit au moment où Jésus est perdu, vous savez, il se perd dans la caravane en rentrant de Jérusalem pendant 3 jours. Alors les parents ne s'inquiètent pas parce que, vous savez, entre cousins, on imaginait bien qu'ils allaient courir à droite et à gauche dans la caravane. Au bout de 3 jours c'est symbolique, hein, 3 jours c'est la résurrection, 3 jours c'est le temps de la conversion. Ils montent au temple, ils vont au temple, et la Sainte Vierge a cette phrase étonnante, « Ton Père et moi te cherchons depuis 3 jours. Ton Père et moi. » Ça veut dire que la paternité de Joseph est réelle, mais elle n'est pas charnelle. La paternité de Joseph est spirituelle, puis charnelle. Alors que la maternité de la Sainte Vierge... est d'abord corporel. La maternité de la Sainte Vierge est d'abord charnelle et ensuite elle va être spirituelle. C'est marrant qu'il y ait un croisement comme ça. Je recommence. La paternité de Joseph est d'abord spirituelle et ensuite... elle est charnelle parce que Saint Joseph va éduquer Jésus. Ça va ? Parce qu'il va lui apprendre à travailler, parce qu'il va lui apprendre à vivre, parce que la masculinité de Jésus va se construire à partir de la masculinité de Saint Joseph. Donc, d'abord, il est père d'une façon spirituelle et ensuite il est père d'une façon charnelle. Et la Sainte Vierge, c'est exactement l'inverse. Elle est d'abord mère d'une façon charnelle, parce qu'elle a Jésus dans son ventre, et ensuite elle va être mère de façon spirituelle. Il y a un croisement. L'identité de Joseph est donc bien l'identité d'un père, qui éduque son fils. Une chose intéressante, c'est que ça montre que la paternité biologique n'est pas forcément toute la paternité. En revanche, la paternité spirituelle est toute la paternité. Ce que je veux dire, c'est que si la Sainte Vierge dit de Joseph qu'il est père, alors qu'elle sait très bien qu'il y est pour rien dans la naissance de Jésus, ça montre que la paternité spirituelle est aussi authentique, est une vraie paternité. Alors je dis ça pour tous les prêtres du monde, mais pas uniquement, pour tous ceux qui, ont une œuvre spirituelle, qui déploie une œuvre spirituelle. Je parlais tout à l'heure avec l'un d'entre vous d'un saint italien, Don Giussani, qui était un authentique père, voilà, il a fait une authentique œuvre de paternité. La paternité de Joseph passe aussi par une humiliation extrêmement profonde. En effet, la Sainte Vierge lui dit « Ton père et moi », enfin elle dit à Jésus « Ton père et moi », donc ça assoit bien la paternité de Joseph. Mais ensuite Jésus répond, je ne sais pas si vous vous souvenez de la réponse de Jésus, « Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de... » Ben, mettez-vous à la place de Saint Joseph 3 secondes. C'est super humiliant. Et vous voyez, c'est le creuset de cette humiliation qui va faire que Joseph va aller jusqu'au bout de sa vocation. Et petite parenthèse, c'est à partir de ce jour-là qu'on ne va plus entendre parler de Joseph. Pour que Jésus existe, Joseph disparaît. Pour que Jésus existe, Jean-Baptiste disparaît. Et ça, c'est une œuvre de paternité. Tous les pères du monde, même les pères spirituels, savent une chose, c'est que pour que le Fils apparaisse, le Père doit disparaître. Alors je vais prendre une métaphore qui m'est très très chère. Mais c'est comme la mer. Si vous voulez que la plage apparaisse, il faut que la mer se retire. Ça fait partie d'une réalité de la vie, d'une vérité de la vie qui est extrêmement profonde, c'est que on ne peut aller au bout de la vie qu'en se retirant. Il y a un moment où on va permettre à la vie d'arriver et de se déployer. Mais l'œuvre de vie, l'œuvre vitale, va s'accomplir dans la disparition. Exactement ce que fait Joseph, il disparaît. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Si ce n'est que, quand Jésus va grandir, on imagine que Joseph a accompagné la Sainte Famille pendant un moment, mais la maturité de Jésus, la maturité masculine de Jésus va être, à mon avis, doit beaucoup à la masculinité de Saint Joseph. C'est une vraie famille, c'est une vraie cellule familiale. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore de Saint Joseph ? Moi, je dis aussi que Saint Joseph, c'est quelqu'un de très très courageux. Sur le plan spirituel d'abord, et puis ensuite sur le plan physique. Pourquoi est-ce que Saint Joseph est très très courageux ? Ben, parce qu'il faut beaucoup de courage pour vivre avec 2 Immaculées Conceptions. C'est vrai. Vous avez la Sainte Vierge d'un côté, vous avez Jésus de l'autre côté. Il faut du courage. Vous êtes le seul qui n'est pas parfait, ontologiquement. C'est marrant, ça. Mais ça prouve une chose, c'est que... Alors attention, ne vous trompez pas avec ce que je dis, la perfection n'est pas nécessaire. Autant l'Immaculée Conception était nécessaire, autant la présence de Joseph nous montre qu'être immaculé, n'est pas indispensable pour la réalisation du plan de Dieu. Les deux ensemble sont nécessaires. Mais il n'est pas absolument nécessaire d'être tous comme la Sainte Vierge. On va tous le devenir. En devenir, on est tous appelés à être comme la Sainte Vierge. Ça, c'est sûr. Mais le fait que nous soyons pécheurs, comme Saint Joseph, eh bien, ne nous empêche pas de sauver le Sauveur, de faire grandir Jésus en nous. Tout ça, c'est sur le plan symbolique et spirituel, hein, de faire grandir Jésus en nous. Et ça ne nous empêche pas non plus de faire la volonté de Dieu. C'est exactement ce qu'a fait Saint Joseph. Autre chose encore, mais ça c'est purement intuitif, et je n'ai pas beaucoup de preuves, mais quelque chose au fond me dit que Saint Joseph devait être aussi quelqu'un d'à la fois très viril, mais en même temps quelqu'un de très tendre. On a une fausse idée de la tendresse. Qu'est-ce qui me permet de dire ça? Pourquoi Saint Joseph était tendre? À cause du regard qu'il pose sur la Sainte Vierge. À cause du fait qu'il n'exerce pas de violence sur la Sainte Vierge au moment où il est dans la difficulté la plus grande, il n'exerce pas de violence. Et quelqu'un qui est comme ça, sans violence à ce moment-là, c'est quelqu'un de profondément doux. Et je pense que la Sainte Vierge et Saint Joseph vivaient une forme de tendresse, une forme de douceur mutuelle. Et ça, c'est très important parce que je pense que ça nous montre qu'au-delà des rapports charnels, on peut vivre dans une forme de tendresse les uns avec les autres. Pas besoin de se toucher, on n'a pas besoin de se faire des câlins ou des bisous en permanence. La tendresse peut tout de même être présente. Ça, je crois que c'est ce que nous enseigne la paternité de Joseph, vous voyez, de Saint Joseph. Autre chose encore, Saint Joseph, c'est un modèle de silence. Il ne parle pas, Saint Joseph. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler, hein. Mais ça veut dire que je pense que Joseph vivait les choses, en tout cas vivait une vérité très profonde qui est que Jésus est le silence. Je vous invite à réfléchir à cette vérité. Comment est-ce que vous croyez que les bonnes sœurs et les frères peuvent vivre en permanence en silence? Comment est-ce que vous croyez que les ermites vivent le silence? Il n'y a qu'une seule réponse possible, c'est que ce n'est pas un silence qu'ils provoquent, c'est un silence qu'ils reçoivent comme la présence de Jésus. Et quand vous recevez le silence, l'absence de bruit comme la présence de Jésus, il y a quelque chose qui va se compléter en vous. Il y a quelque chose qui va habiter votre espace, qui va habiter le vide de votre cœur. Je dis ça parce que peut-être que parmi vous, il y en a qui ont fait l'expérience du veuvage. Peut-être qu'il y en a qui vivent un célibat non consenti, enfin non recherché en tous les cas. Et peut-être que vous vous dites, vous vous sentez perdu parce qu'il y a de longues plages dans votre existence de silence. Moi, je voudrais vous dire de traverser ces journées en présence de Saint Joseph et vous allez apprendre à vivre avec Jésus. Et vous allez apprendre à découvrir que Jésus précisément habite le silence, votre silence. Il me semble que si justement notre société fait tant de bruit, c'est que le démon n'a qu'un objectif, en fait, c'est de nous séparer de Jésus. Et donc, il fait du bruit. Mais si on coupe le bruit, si on se réfugie dans le silence sans avoir peur du silence, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découvrir, comme Joseph, la présence de Jésus. Et ça, je vous assure, pour l'avoir vécu très très souvent, c'est une joie inouïe, au point qu'on a plus envie de voir qui que ce soit. Les autres êtres humains deviennent des obstacles. Bref. Donc, Saint Joseph vit le silence, ce qui l'empêche pas d'être en relation, et ce qui lui permet de laisser la place à Jésus, pour que Jésus existe et soit présent. Saint Joseph, c'est un homme de foi. Ça veut dire que Joseph ne part pas de sa propre pensée. Vous voyez ? Joseph n'ouvre pas un tableur Excel pour voir les points positifs et les points négatifs de ce que la Sainte Vierge lui a raconté. Il ne fait pas ça, Joseph. Il ne raisonne pas. Raisonnablement, ce que la Sainte Vierge vient de lui dire, quand elle lui dit qu'elle est enceinte du Sauveur, raisonnablement, ça ne tient pas debout. Mais Joseph, comme il est juste, il réfléchit au-delà de la raison. Et au-delà de la raison, lié à la raison, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la foi. Et la foi, c'est quoi ? C'est une capacité que nous avons d'être en relation avec Dieu. Et c'est ce que fait Joseph. Joseph ne comprend pas, il se branche sur Dieu. Et il attend. Et Dieu lui parle et lui dit ce qu'il a à faire. Prends chez toi, Marie. Vous voyez, c'est ça la foi. Joseph nous montre comment avoir la foi. Jamais Joseph ne s'affole. Jamais. Il sait que Dieu est là. Il sait que ce que Marie dit est vrai. Ça, il le sait. Ce qu'il ne comprend pas, c'est ce qu'il doit faire, en fait. Parce qu'il est indigne, il se sent indigne d'élever le Sauveur. Alors il attend que Dieu bouge. La foi de Saint Joseph. Une foi profonde et silencieuse qui accepte les plans de Dieu quand ils dépassent notre compréhension. Et nous, est-ce qu'il y a des endroits dans nos existences, est-ce qu'il n'y a pas des moments dans notre existence où on ne comprend pas ce qui nous arrive? On n'a rien fait de mal, mais on a des aspirations, on a des besoins, mais on ne comprend pas ce qui se passe. On voudrait se marier, mais il ne se passe rien. On voudrait travailler, mais on n'arrive pas à trouver un travail. On aurait aimé vivre dans une famille et la fidélité, mais on a été trahi. On aurait aimé vivre longtemps dans cette vie, mais on est malade d'une maladie qui va nous faire mourir. Joseph nous apprend à faire confiance. Faisons comme Joseph, comme Saint Joseph. On ne comprend pas, mais c'est vraiment pas grave. Ne pas comprendre n'est vraiment pas grave. Essayer de comprendre peut nous mettre dans une angoisse extrêmement profonde. Il me semble que l'angoisse est liée parfois au fait qu'on cherche à comprendre l'incompréhensible. Là, il ne s'agit pas de le comprendre, il s'agit de l'accueillir. Comment vous voulez comprendre que la Sainte Vierge soit enceinte par l'opération du Saint-Esprit ? Imaginez la Sainte Vierge assise sur un banc en pierre, imaginez Joseph assis en face d'elle, imaginez Joseph en train de regarder Marie avec beaucoup d'amour et de tendresse. Mais comment voulez-vous qu'ils comprennent ? C'est impossible. Et donc, il ne comprend pas. Ça, il faut l'entendre, mais il accepte. Voilà la foi de Joseph. Il accepte. Et il me semble que nous avons, pendant cet avant, à accepter pas mal de choses du même ordre. Pourquoi le pape va en Corse alors qu'il y a une semaine, tous les chefs d'État étaient dans Notre-Dame? À logique humaine, on se dit, mais c'est zut, c'est, il a loupé le... Mais non, le Seigneur est en train de faire autre chose qui dépasse notre entendement. Mais c'est vachement intéressant, ça. Voyons donc ce que le Seigneur va faire. Observons. Au-delà du fait que le cardinal Bustillo soit quelqu'un de très, très séduisant, c'est vrai, il y a un côté séduisant, qu'est-ce que le pape est en train de faire? Ou plutôt, qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire? Et finalement, peut-être qu'au fond, il est en train d'honorer la France d'une façon absolument, complètement inattendue. Mais vous voyez la logique de Joseph, je ne comprends pas, j'accepte. Retenez ça, je ne comprends pas, mais j'accepte. Je ne comprends pas pourquoi je suis seul, mais j'accepte. Je ne comprends pas pourquoi je vais mourir, mais j'accepte. Je ne comprends pas pourquoi moi, Père Antoine d'Augustin, tellement génial, je ne suis pas déjà évêque ou pape, mais j'accepte. Je plaisante. Mais pourquoi moi plutôt qu'un autre? Pourquoi moi prêtre plutôt qu'un autre? Je vous assure que j'ai toujours pas compris. Voilà, Saint Joseph aussi, c'est un modèle d'obéissance. Et chers frères et sœurs, il faut vraiment entendre ce mot. Parce que nous, les Français, on a un problème avec l'obéissance quand même. Et je dis bien nous, les Français, hein, parce que les Italiens, ils sont parfaits, les Italiens. Les Polonais, ils sont parfaits. Les Allemands, ils sont parfaits. Mais alors, nous, les Français, dès qu'on peut désobéir, tac, tout de suite, on le fait. Alors, Saint Joseph, c'est un modèle d'obéissance. Obéissance, obéire, en latin, ça veut dire regarder dans la même direction que. Ça ne veut pas dire être l'esclave de. Ça m'étonnerait bien que la Sainte Vierge aime un esclave. Pour moi, quand la Sainte Vierge regarde Saint Joseph, elle l'aime, elle n'aime pas un esclave, elle n'aime pas un gars soumis. En revanche, elle aime un juste. Ben, qu'est-ce qu'il fait Saint Joseph quand Dieu lui indique une direction? Ben, il prend la direction. Il ne se pose pas 40 000 questions. Et là encore, pardon, mais est-ce qu'on n'aurait pas parfois un peu trop tendance à entrer dans une forme d'analyse qui nous empêche d'agir? Alors pour analyser, ça, on est champion du monde. Mais pour agir et pour faire les œuvres de Dieu et pas pour Dieu, parce que faire les œuvres pour Dieu, ça c'est très facile, hein, il suffit de s'agiter dans tous les sens et de faire sa volonté propre, ça épuise. Mais faire les œuvres de Dieu qui viennent du cœur de Dieu, ça c'est autre chose. Parfois, ça demande de la patience, de l'écoute. Mais c'est ce que fait Joseph. Regardez-le à l'œuvre. Regardez-le dans la crèche. Regardez-le avec la Sainte Vierge, avec l'enfant Jésus qui fait 50 cm de long, qui crie, qui gueule, qui tête sa mère comme tous les bébés de cet âge. Et en plus de ça, il y a plein d'invités qui s'invitent dans tous les sens. Alors, ils s'invitent dans la crèche, etc. Et tout d'un coup, Dieu, le Père, siffle le rappel et dit à Joseph, bon, ok, tu dégages vite, tu pars tout de suite et tu vas direct en Égypte. Mais, chers frères et sœurs, moi, à la place de Joseph, j'aurais dit au Seigneur, d'accord, avec quel argent